Alors bonjour à tout le monde. Alors vous êtes enfin rentré de vacances. Ah, c'est bien, ça vous êtes parti longtemps, hein. Ah, je sais bien que vous pensez ça de moi, bien sûr. Je viens de rentrer, hein. Alors c'est vrai qu'on a fait une grande coupure, oui. Bon, qui, enfin qu'on n'a rien fait, mais en tout cas ça nous a fait du bien. Et j'ai reçu justement en rentrant. Un petit email d'un cher frère qui me dit, bon, François, après toutes tes pérégrinations, hein, tes allers-retours, c'est fini les vacances. Hein. Ça allait dans le sens, ben, pour reprendre le boulot. Hein. Et donc, ça tombait très bien parce que j'étais dans une réflexion personnelle sur mon service dans l'Église. Et du coup, il y a cette phrase qui est venue à mon esprit, « Remplis bien ton ministère ». C'est vrai que dès le commencement de la création, Dieu a veillé, bien sûr, à l'appel de son peuple à le servir. Et ce titre, « Remplis bien ton ministère », vous rappelle certainement un passage de la parole de Dieu. Alors ce matin, c'est simplement pour partager donc sur mes propres réflexions. Quant à mon service ou quant au ministère que Dieu attend de nous, c'est-à-dire de chacun. Alors ces ministères, ces services sont nombreux, hein, parce que notre Dieu est un Dieu personnel, et puis il est un Dieu créatif, hein, c'est-à-dire qu'il crée quelque chose pour chacun. Et nous sommes tous appelés à servir d'une manière ou d'une autre. Alors cette interpellation de Paul à Timothée, remplis bien ton ministère, a donc une résonance particulière pour moi. Vais-je avoir la force? Vais-je avoir la volonté? La capacité, la persévérance pour accomplir mon service. Alors ces questions, évidemment, chacun d'entre nous peut se les poser. Et cela, quel que soit son service particulier. Alors comme cela nous est dit dans Éphésiens 6, je vous invite à prendre votre épée, hein, qui est la parole de Dieu pour y faire la lecture de 2 Timothée. C'est bien le rouge ? Ouais. Voilà. Donc dans 2 Timothée, donc je lis dans la version second, 2 Timothée 4, les versets 1 à 5. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son avènement et de son royaume, prêche la parole. Insiste en toute occasion, favorable ou non, reprends, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, les ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Et donc, particulièrement ce verset 5, « Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. » Alors, dans cette version seconde que nous venons de lire, si l'on extrait ce passage de ce contexte, cela pourrait nous faire mal interpréter donc les propos de l'apôtre Paul. Remplis bien. Alors, tu prends le sac de ton ministère, alors pas un petit, un grand sac, hein, tu prends le grand sac de ton ministère, de ton service, et puis tu le remplis. Tu le charges. tant que tu y es, tu le bourres bien hein, pour que il rentre le maximum. Ne te laisse aucun moment de répit. Charge bien ton service de tout ce qui est possible, de tout ce qui est possible de faire. D'ailleurs, la parole de Dieu ne dit-elle pas « L'oisiveté est mère de tous les vices, alors je dois m'occuper à fond ». Alors bien évidemment, chacun aura compris qu'il ne s'agit pas de cela. L'apôtre Paul ne parle pas d'un ministère très rempli, mais d'un ministère bien accompli. La version Serval dit « Remplis complètement ton ministère ». La version français courant dit « Remplis ton devoir de serviteur de Dieu ». La version Darby « Accomplis pleinement ton service ». Et la version Sauveur « Accomplis pleinement ton ministère ». Il s'agit donc d'accomplir son ministère, comment ? De la meilleure façon qui soit, du mieux possible, tel que Dieu le conçoit et l'apprécie. Cet appel à servir à Timothée n'est pas la seule personne à avoir été exhortée à le faire. Paul, par exemple, adresse également cette exhortation à destination d'Archippe dans Colossiens. Et il lui dit « Prends garde au ministère que tu as reçu dans le Seigneur, afin de bien l'accomplir. » Ce service que Dieu attend de nous est en réalité une grande bénédiction, une profonde bénédiction que Dieu nous accorde. Ainsi, en réponse à cette confiance que Dieu nous témoigne, nous sommes appelés à accomplir notre ministère de la meilleure façon qui soit. Ce que nous devons savoir, c'est que d'une part, Dieu nous a trouvés capables de le remplir. Mais qu'en plus, il nous a trouvés capables de le remplir bien. Et c'est pas fini. Et c'est parce qu'il nous a trouvés capables de le remplir bien qu'il nous l'a confié. Alors la question que nous pouvons nous poser à ce stade, c'est comment pourrais-je faire pour remplir bien mon service ? Le passage que nous voulons nous lire nous donne quelques réponses à cette interrogation. Certes, le ministère dont il est question dans ce passage est un ministère particulier, précis, celui du ministère de la parole pour annoncer l'Évangile dans toute sa plénitude, sans le modifier en rien, mais en l'utilisant pour convaincre ou pour débouter toutes les fausses doctrines. Mais cette parole inspirée, donnée à Paul pour Timothée et son ministère particulier, vaut pour nous tous. Et dans nos ministères personnels, c'est-à-dire différents. Accomplir son service de la meilleure façon qui soit vaut pour tous les enfants de Dieu et pour tous les ministères, tous les services. Qu'il soit accompli dans l'Église locale, mais aussi pour l'Église avec un grand E. En fait, pour tout service pour le Seigneur. Et puis, ça vaut aussi pour tout. Regardez ce qu'il est dit dans Colossiens 3, 23. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur. Est-ce que je fais tout de bon cœur, comme pour le Seigneur. Et je me pose cette question pour moi-même, est-ce que tu fais tout de bon cœur, François, pour le Seigneur? Est-ce que tu fais tout bien pour le Seigneur? Un ministre de Dieu, dont celui qui a reçu un ministère, un service, n'est autre qu'un enfant de Dieu qui a été doté par Dieu de qualités pour le représenter, pour être un intermédiaire entre Dieu et les hommes. Pour ce qui est du ministère de la parole, cela signifie qu'il doit, en toute fidélité, annoncer aux hommes ce que Dieu dit. Pour ce qui est des autres ministères, des autres services, cela signifie également que nous sommes les représentants de Dieu. Nous sommes ses témoins dans nos services. Et que par conséquent, nous devons témoigner fidèlement de ce que Dieu est, de son amour, de sa bonté, de sa sainteté, de sa justice, de ce qu'il a fait dans nos vies, dans ma vie, des transformations qu'il a opérées. Tout le monde devrait pouvoir découvrir ou se rendre compte de l'œuvre de Dieu dans ma vie au travers de l'accomplissement de mon service. Et donc, du coup, cela doit me motiver toujours plus, conscient de mes imperfections. Pour que Timothée remplisse bien son ministère, le ministère de la parole, Paul lui dit, non seulement prêche la parole de Dieu, mais il en indique les comment et les pourquoi. Premièrement, il lui dit, tu dois prêcher parce que Dieu jugera les vivants et les morts. Paul, à ce moment-là, il est au crépuscule de sa vie. Et il tient à rappeler à Timothée la responsabilité qui est la sienne, d'avertir les hommes et les femmes qu'un jugement de Dieu va venir, va arriver, et qu'il est préférable pour chacun d'entre eux et d'entre elles de tenir compte de l'opportunité du salut en Jésus-Christ. Paul rappelle à Timothée qu'il est en quelque sorte comme une sentinelle, un peu comme celle qui est décrite dans Ézéchiel, où il est dit « Si la sentinelle voit l'épée et ne sonne pas de la trompette, si le peuple n'est pas averti et que l'épée vienne enlever à quelqu'un la vie, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle. » Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. Ensuite, il lui dit à Timothée, tu dois prêcher en toutes circonstances. Timothée, pour bien accomplir son ministère, ça veut dire qu'il doit saisir toutes les circonstances que Dieu place devant lui. Je dois saisir toutes les circonstances que Dieu place devant lui. Devant moi, qu'elle soit favorable ou défavorable. Il lui dit, tu dois prêcher en insistant en toute occasion. Et il lui dit, dans quel sens? Timothée, tu dois reprendre, tu dois censurer, tu dois exhorter avec douceur. Et puis enfin, troisièmement, il lui dit, tu dois prêcher, car les hommes ne supporteront plus la saine doctrine. Paul encourage Timothée à prêcher l'Évangile. Il ne l'encourage pas à prêcher ce que les hommes auront envie d'entendre, hein, mais il l'encourage à prêcher ce que Dieu veut, ce que Dieu a à dire aux hommes. Paul rappelle donc à Timothée tous les enjeux de son ministère, tous les enjeux d'un ministère bien accompli. En clair, pour ce qui nous concerne, à nous, chacun dans son service particulier, nous avons à repasser dans nos cœurs, c'est-à-dire à nous rappeler, à nous remémorer les raisons, les objectifs de notre appel, le bien fondé de notre ministère. En quelque sorte, Paul exhorte Timothée à un service de son ministère d'autant plus assidu, d'autant plus dévoué, d'autant plus fidèle, d'autant plus intègre que quoi ? Que les temps étaient mauvais. Et ils le sont encore de nos jours. Parce que les temps sont difficiles. Justement, je me dois encore plus à mon service et à l'application de la meilleure façon qui soit de mon service. Paul donne également à Timothée des indications sur les moyens de bien remplir son ministère. Ça, c'est un volet important. Les moyens de bien remplir son ministère. Et ces conditions-là qu'il lui indique, elles, ce ne sont pas des conditions particulières. C'est-à-dire qu'ils ne seraient propres qu'à son service particulier, par exemple celui de la parole. Mais ce sont plutôt des conditions générales à tous les services. On peut en citer quelques-unes. En effet, à tous les services, sont attachés des réalités communes. Être des témoins fidèles, accomplir du mieux possible son service, appréhender la réalité de la difficulté sans crainte, et bénéficier des joies partagées dans l'exercice de son service. Alors, premièrement, pour cela, que précise-t-il à Timothée ? Tu dois être sobre en toutes choses. Alors, la version Semeur dit « Garde en toutes circonstances le contrôle de toi-même, la maîtrise de toi. » Ne pas se trouver dans une situation d'être détourné, par exemple, de la vérité, ne plus être en mesure de maîtriser les circonstances, ne pas se trouver dans une situation d'être diverti par quoi que ce soit qui nous éloignerait de la ligne de conduite, de l'objectif. Pierre, dans sa première épître, donne une exhortation similaire en disant « Gardez votre esprit en éveil. Ne vous laissez pas distraire en rien, être lucide, ferme. » Pour cela, Paul rappelle à Timothée les références qui sont les siennes. Quelles sont les références de Timothée ? Vous les connaissez, on va simplement les redire. Premièrement, il le rappelle qu'il a comme référence l'exemple qu'il a reçu de Paul. Dans 2 Timothée 2, il dit « Ce que tu as entendu de moi, confie-le à des hommes fidèles. » Comme deuxième référence, il lui dit la connaissance qu'il a de la parole. Et ça, c'est dans 2 Timothée 3, 15. « Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres. » Et puis, quelle est la troisième référence de Timothée ? C'est l'enseignement qu'il a reçu. Dans 2 Timothée 3, 14, « Toi, demeure dans les choses que tu as apprises, sachant de qui tu les as apprises. » Les vérités apprises, le partage de la parole, les enseignements reçus doivent nous servir d'appui, de référence. Ils doivent nous permettre de rester fermes et vigilants. Alors la seconde indication est pour bien remplir ton ministère, supporte les souffrances. Ça c'est la plus compliquée, non ? Supporte les souffrances. Alors l'apôtre Paul montre à Timothée, qu'est-ce qu'il lui montre ? Il lui montre en fait qu'il ne pourra pas bien remplir son ministère sans connaître ni passer par la souffrance. En clair, si Timothée n'est pas prêt, ou s'il n'envisage pas la réalité de la souffrance, à un moment donné ou à un autre, dans l'exercice ou l'accomplissement de son ministère, alors
il ne pourra pas bien l'accomplir.
Être prêt à souffrir, c'est-à-dire à supporter quoi, par exemple? Des souffrances physiques? Il me semble que nous n'en sommes pas encore là de nos jours. Mais au-delà de nos petites désillusions, de nos petits tracas, c'est vrai que nous pouvons avoir des souffrances dans l'exercice de notre service. C'est vrai. Telles par exemple que des souffrances morales, des injustices, des oppositions ou perçues comme telles, etc. Alors, Paul n'arrête pas là, il va donner un exemple à Timothée. Dans 2 Timothée 3:11, il lui dit: à quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre? À quelle persécution n'ai-je pas supporté? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Pensez-vous que Paul parle uniquement des souffrances venues de l'extérieur? Il a dû également supporter la méfiance venant de l'intérieur. Rappelez-vous par exemple l'attitude d'Ananias dans Acte 9, qui doutait même jusqu'à la conversion de Paul, hein, vu son historique, on avait dû se méfier un peu. Hein. Et que penser également de tout le mal qu'un certain Alexandre le Forgeron lui a fait, entre autres. Mais Paul de conclure tous ces exemples de difficultés, mais le Seigneur m'a délivré de toutes. De toutes les souffrances, de toutes les épreuves, de toutes les difficultés, de toutes les oppositions, de toutes les méfiances. La souffrance n'est pas un acte de désapprobation du Seigneur sur la manière dont j'accomplis mon ministère. Notre fidélité à Dieu suppose, implique de passer par les peines, les plus profondes parfois, mais qui nous donnent l'occasion de goûter le soutien de Dieu, de goûter les victoires remportées et de grandir dans la confiance en lui. Alors, conclure notre partage sur la note de la souffrance dans le service, ce ne serait pas juste. Parce que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas que ça. Parce que notre ministère n'est pas fait que de cela. Il n'est pas fait que de souffrance. Il est fait de joie. Et je dirais même que nous avons, et j'en suis sûr, les uns et les autres, dans nos services particuliers, et cela à maintes reprises, nous avons nos friandises, nous avons nos sucreries, nos petites douceurs ressenties dans telle ou telle occasion. Combien Dieu sait que nous avons besoin de goûter la joie. Dans notre service, quel qu'il soit, pour y être encouragé à le poursuivre, pour y être encouragé à le reprendre, ou pour être encouragé à démarrer un nouveau service. Et Dieu ne nous privera pas cette année encore de toutes ces joies. Pas CES, SES. Ces joies qui nous communiquent, les siennes. À la peine, Dieu donne la consolation. À la souffrance, il donne la guérison. À l'opposition, il pourvoit par la communion fraternelle. À la déchirure, il oppose la réconciliation. Au besoin, la compassion des frères et sœurs. À la solitude, sa présence réconfortante. Alors en conclusion à ce partage-là est un rappel ou une prise de conscience de la nécessité de se relancer dans son service ou à démarrer un nouveau service pour Dieu. Est-ce que nous sommes prêts à nous laisser recruter par Dieu ? Et puis ce partage, c'est aussi un rappel au sérieux et à l'application dans l'exercice de notre service. Et enfin, il est une exhortation à ne pas être découragé, à ne pas se décourager, mais à être renouvelé dans notre service. Et cela, quoi qu'il en coûte. J'ai combattu le bon combat, dit Paul, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Voilà ce à quoi nous sommes appelés. À tenir jusqu'au bout et à aller de progrès en progrès pour la seule gloire de notre Sauveur et de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors que Dieu nous bénisse ensemble durant cette nouvelle année et que chacun puisse trouver pour son service un élan nouveau, une motivation renouvelée et ainsi goûter des joies partagées. Que Dieu m'aide, que Dieu nous aide à rester dans cette dynamique, c'est-à-dire un ministère bien accompli. Amen.